Socrate, dit-on, demandait avant toute conversation sérieuse à l'interlocuteur s'il était son ami. Au-delà de la courtoisie, c'est une attitude très profonde qui fait qu'on ne peut discuter ou débattre ou avoir un échange qu'avec des personnes qui sont persuadées a priori que l'interlocuteur peut l'aider à faire sa synthèse, à l'aider dans sa marche vers la vérité. Et par expérience, je sais que le sujet que nous allons aborder dans la deuxième partie de cette petite causerie soulève parfois des passions que je peux comprendre en partie, mais seulement en partie. Donc, je crois que vous et moi, au moins au départ, parce que l'arrivée, bon, au moins au départ, nous devons tenter de penser que, bon, évidemment, c'est évidemment moi qui vais commencer par parler, mais après vous, vous allez poser des questions. Nous devons les uns et les autres penser que, eh bien, nous avons quelque chose à nous apporter. Alors, quand on a des convictions profondes, elles ne sont pas de nature à changer dans une après-midi. Hein. Bon. Mais enfin, ça peut, comme dit, nous aider à avancer vers la vérité. Et comme je l'ai dit la dernière fois, avant d'aborder donc ce qu'il est convenu d'appeler les théories de l'évolution et leur rapport avec le corpus doctrinal de la foi chrétienne, je pense qu'il est important de clarifier quelques questions générales qui concernent le rapport d'un discours scientifique au sens des sciences de la nature, mais excusez-moi, je ne suis pas spécialiste des sciences humaines, des sciences de la nature, donc un discours scientifique et un discours de foi, en tout cas un discours de foi chrétienne. Donc tout d'abord, je vais essayer de définir avec vous, très rapidement bien entendu, ce que c'est qu'une théorie scientifique. Théorie vient du grec, théoria, qui à peu près à l'époque de Platon est passé de la simple connotation de la vision à la contemplation. Et l'usage mystique ou de théologie mystique rend compte de ceci puisqu'on parle d'approche théorétique, c'est-à-dire d'approche contemplative. Alors, c'est tout un programme de penser qu'une théorie, c'est, ou une attitude théorique, c'est aussi une attitude théorétique, une attitude de contemplation. Un peintre, un artiste peintre, dont je ne me souviens plus très bien du prénom, je crois que c'est André Gens, qui se trouve être par ailleurs un prêtre, une fois avait cette parole magnifique concernant son art. Il disait qu'il faut passer de la vision à la contemplation. Et en gommant tout l'aspect religieux ou spirituel, je crois que d'une certaine manière, ça reflète bien le mouvement de la connaissance qui est défini par exemple dans Aristote, où l'on voit qu'il y a une sorte d'aller-retour entre la diversité de ce qui est perçu et l'unité du concept qui les rassemble, en attendant de confronter cette unité temporaire avec la diversité. Et donc vous avez un schéma itératif de ce genre. Donc vous avez d'une certaine manière la vision, c'est-à-dire le sensible, et ensuite la contemplation, l'aspect plus conceptuel qui après doit s'enchaîner avec une nouvelle contemplation, avec une nouvelle vision, je vous prie de m'excuser. Voilà. Ceci a été formalisé par certains philosophes des sciences, dont le plus remarqué est Karl Popper. Mais avant de parler de Karl Popper et en suivant son chemin, il est intéressant de noter une petite phrase, ou quelques phrases d'Emmanuel Kant dans la préface de la seconde édition de la Critique de la raison pure, où il dit que ce n'est que par une élévation arbitraire de la valeur que le scientifique formule des affirmations universelles. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je vais prendre un exemple qui est lié à l'histoire personnelle de Popper, qui a vécu en Angleterre à la fin de sa vie, compte tenu des circonstances.